La fondatrice en lévitation est le poêle. Votre époux est celui qui unit le ciel et la terre. Carnet noir, page 68. Le monastère avait été fondé au début du XXe siècle par une femme remarquable dont le zèle égalait la bonté et la compassion envers les petits. Beaucoup de gens se représentent l'idéal religieux comme un idéal de froideur. Au contraire, notre esprit est un esprit d'amour, de flamme, de feu, déclarait-elle notamment. À la suite d'une longue quête spirituelle, cette mère de famille de la haute société et d'un milieu anticlérical avait fini par se convertir à Lourdes et par entrer dans un Carmel dont elle avait eu la vision prémonitoire détaillée et dont elle reconnut alors jusqu'à la niche du chien. Ayant tâté du spiritisme et autres consultations de voyants, lors de ses années d'errance, elle avait ouvert des portes à des esprits invisibles, peu désireux de la laisser tranquille. C'est ainsi que divers phénomènes troublants avaient lieu autour d'elle à l'occasion, dans les premiers temps, y compris des bruits de pas d'hommes dans le silence nocturne de la clôture monastique. Sa mère prieure, incrédule, lui riait au nez en s'imaginant que, décidément, elle avait l'imagination trop exacerbée et prenait de vulgaires rats pour des cambrioleurs. Le déni dura jusqu'au jour où la dite prieure entendit de ses oreilles des pas masculins traînants, se dirigeant vers sa cellule, et courut, oubliant toute fierté, se réfugier en chemise de nuit dans la cellule de la première. On racontait aussi comment elle avait, seule entre toutes, deviné le lourd secret d'un prêtre de passage, inconnu jusque-là, alors qu'elle occupait elle-même la charge de prieur. L'histoire était connue uniquement parce que le prêtre lui-même avait raconté les faits aux sœurs externes, alors que ce n'était pas à son honneur. « Votre mère prieure est une sainte. Vous avez de la chance, » s'était-il exclamé. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. En célébrant la messe devant vous ce matin, j'ai fait semblant de réciter la formule de la consécration. Je ne voulais pas consacrer réellement, de peur de commettre un sacrilège, puisque j'avais de bonnes raisons de ne pas me croire en état de grâce, mais plutôt de péché mortel. De la place où vous étiez, vous ne pouviez voir la différence, et vous avez communié. Cependant, votre mère m'a aussitôt fait demander au parloir. Monsieur l'abbé, ce n'est pas le corps du Christ que vous m'avez donné, m'a-t-elle déclaré fermement. Le prêtre, comme frappé par la foudre, lui avait alors tout avoué. Elle lui avait donné délicatement des conseils salutaires, humbles de son expérience de pécheresse pardonnée, et sans nul doute brûlant de son amour pour le Christ. Une autre fois, malade à l'infirmerie, elle était en compagnie de son infirmière, carmélite comme elle. Cette dernière l'avait vue soudain décoller du sol, sans qu'aucun élément rationnel ne puisse expliquer le phénomène. Terrorisée, la bonne infirmière, oubliant du coup les lévitations de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix, s'était alors réfugiée derrière le poêle éteint en se faisant la plus petite possible devant cette force mystérieuse qui arrachait une carmélite à la pesanteur. Quand la fondatrice de notre Carmel avait réatterri sur le plancher des vaches, l'infirmière avait voulu quitter sa loge étroite, mais elle était coincée. Il lui avait fallu beaucoup de tiraillements pour en sortir. Lorsque je parlais de cet épisode pendant une récréation, les sœurs n'avaient pas l'air au courant. Mais une religieuse ancienne, sœur Marie-Élisabeth des Anges, ce n'est pas un pseudonyme, les yeux brillants, opina du chef avec naturel et confirma les faits devant toutes en nous donnant le nom de l'infirmière témoin, décédée depuis, et que j'ai oublié. La délicatesse avec laquelle cette fondatrice au grand cœur reprenait éventuellement les personnes ou se mettaient à leur place, ne me semblait pas une vertu très pratiquée en son temps, si l'on se fie au témoignage des anciens sur leurs enseignants, leurs parents et les autres personnes exerçant une autorité. Que de bonnets d'âne, de coups de férule, d'insultes envers des cancres trop souvent défavorisés ou mal aimés, de sanctions humiliantes et d'algarades écrasantes la rumeur populaire nous rapporte. Que de suffisance et de complexes de supériorité chez les Européens à l'égard des autres peuples. Que d'impossibilité pour les enfants d'être écoutés face à un adulte qui abusait de sa situation. Or, en elle, malgré ce contexte dur et lourd de l'époque, rien de ces différences de considération entre les personnes fondées sur des apparences souvent trompeuses. Raison pour laquelle je l'admirais encore davantage. Par grâce, j'ai pu avoir dans les mains et lire son carnet noir, journal intime manuscrit, où elle livre son âme par obéissance à sa prieure. J'ai été étonné par la présence d'un dessin, de sa main vraisemblablement, représentant Sainte Catherine de Sienne, couronnée d'épines et porteuse des stigmates du Christ. Il était placé au milieu du cahier, à un endroit où plusieurs pages avaient été soigneusement enlevées au rasoir, juste après la phase où elle se proposait de raconter les plus grandes grâces de sa vie. Aïe ! Ce passage définitivement perdu était sans doute le plus significatif. Quant au dessin, était-ce une simple composition pieuse ? Ou avait-il une relation étroite avec le contenu du passage détruit? Comment le savoir désormais? Certes, je n'ai jamais rencontré cette fondatrice, décédée avant la Seconde Guerre mondiale. Mais je sentais quelque chose de son esprit planer encore sur la communauté. Un zèle ardent pour la gloire de Dieu. Une bonté traduite concrètement. Une délicatesse. Un respect des personnalités qui évitait de produire des religieuses à la chaîne dans une sorte de taylorisation spirituelle. Un côté artiste et large d'esprit, loin des maniaqueries étroites et des mesquineries que la rumeur populaire associe souvent aux femmes consacrées à Dieu. J'aimais ce côté libre et original, déployant le charisme de chacune. Je me serais enfui en courant, devant une communauté où les religieuses semblent clonées, tant leur aspect physique et leur attitude paraissent niveler toute différence.